Bonjour à toutes et à tous, je suis Édouard Bonamour et vous écoutez le podcast de Perds pas ma page, un podcast qui vous fait découvrir la bibliothèque idéale des artistes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Cet épisode est réalisé en partenariat avec la FNAC à l'occasion de FNAC Live Paris qui se tiendra du 29 juin au 1er juillet sur le Parvis et dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir les deux membres du groupe Terre Noire, Théo et Raphaël, deux frères qui ont triomphé aux dernières victoires de la musique en recevant le prix de la révélation masculine pour leur premier album, Les Forces Contraires. Depuis, tout s'est enchaîné, un duo avec Bernard Lavillier, une réédition de leur album intitulé La Mort et la Lumière. Et je rêve. Des textes magnifiques pour parler de l'amour, de la mort, de la fête aussi, une énergie de dingue sur scène. Terre Noire est un tourbillon musical qui emporte tout sur son passage. On va découvrir ensemble quelques-unes de leurs lectures favorites. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode de Perds pas ma page, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut les gars.
Salut.
Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le podcast de Perds pas ma page. Je vous redis juste en deux secondes le principe du podcast. En gros, je demande aux artistes que je rencontre de me donner une sélection de titres et on en parle pendant une demi-heure. Alors le but, c'est vraiment pas de me faire une étude de texte, c'est de me dire vraiment qu'est-ce que ça vous a inspiré, pourquoi ça vous a plu et surtout de nous donner envie de les lire. Vous voulez commencer par quoi ?
Eh ben, si tu veux, on peut commencer par J'envisage l'impossible de Arthur Naveloo. Hein. C'est let's go.
Donc ça, c'est ton choix, Théo ?
Ouais.
Arthur Naveloo, qui est le chanteur du groupe Catastrophe, qu'on adore.
Que j'adore aussi, j'ai eu la chance de travailler avec eux là, il y a quelques semaines, pour une espèce de, d'appel à projet que la Seine-Saint-Denis a lancé, qui s'occupait de faire une espèce d'objet musical avec tout plein de personnes, d'acteurs. Donc il y a un tailleur de pierre de la Basilique Saint-Denis. Ils font une chanson à partir de ses voix ou à partir de ce qu'il dit. Non, c'est une instrumentale. Une chanson dans les maisons de retraite de Saint-Denis, les écoles. Et j'ai eu la chance de produire en fait les trois titres, enfin de les réaliser.
Ok.
Du coup, je les adore. Et puis Arthur a eu la gentillesse de nous envoyer ce livre il y a deux mois quand il est sorti. Et je l'ai lu et j'ai trouvé ça formidable parce que ça parle beaucoup. Du territoire, de la province, de la famille, de l'héritage, de ce qu'on laisse, de ce qu'on donne, et des parfums que l'on a. J'arrête pas de parler de parfums en ce moment, de parfums d'une ville, de parfums de l'enfance. Et je trouve que la restitution, même dans le style de l'écriture, qui sont comme des courts poèmes ou comme des courtes nouvelles, vraiment c'est hybride entre les deux, m'a beaucoup beaucoup touché parce que il réussit à trouver des vérités et des fragrances d'un moment qu'on a tous réussi à vivre, nous petits enfants de province, et qu'il est parfois assez difficile à restituer, soit dans l'art, soit avec les paroles. Raphaël réussit à le faire aussi, et j'ai retrouvé aussi pas mal ça dans ce livre.
C'est vrai que c'est vachement des thèmes que vous abordez dans le groupe aussi, c'est de retrouver ça justement dans la poésie. C'est ce qui t'a vachement marqué aussi, toi. Tu vois, j'avais pris un extrait.
Ouais, exactement. Jusqu'à mes 30 ans, j'ai toujours eu sur mon lit une valise pleine au cas où je voudrais m'enfuir. Tu vois, ça c'est assez drôle parce que je me rends compte que je vis avec une valise et que j'ai absolument propriété d'aucun meuble et que je me dis vraiment le plus important pour moi, c'est de faire un déménagement rapide pour que si jamais il y a un souci, je ne suis pas encombré.
Ah bon, c'est vrai ?
Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose du fait que les grandes villes qui coûtent trop cher, dans le sens où on se dit je ne pourrais jamais m'acheter un achat ici, donne pas envie de s'acheter des choses très 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 massives dans lesquelles il faudrait un camion de déménagement pour bouger dans une ville surbondée. Enfin, je pense qu'il y a quand même l'imaginaire de la ville très très concentrée. Non, moi je sais que je me targue toujours de faire mes déménagements avec une valise, quoi.
Et la poésie, c'est un style qui te parle beaucoup parce que il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait de la poésie. Ça les effraie de se lancer dans un recueil de poèmes et de pas réussir forcément à comprendre. Là, on n'est pas loin de la chanson au final. C'est pas une poésie qui est difficile d'accès.
Non, pas du tout. C'est vraiment quasiment des journaux de bord, en fait, finalement. C'est comme une espèce de journal, mais qui est romancé de manière à ce que ça se lise quasiment comme de la poésie. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette sincérité, dans le fait qu'il se découvre très 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 profondément et très intimement à travers ses textes. Je trouve que c'est très impudique aussi. On parle beaucoup, Terre Noire, ils sont très impudiques. Je trouve que J'envisage l'impossible, ce qui est dit par Arthur, c'est très 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 impudique aussi. Et
c'est quelque chose qu'on vous a dit, ça, que vous êtes très impudique?
Oui, on nous appelle les frangins frisés impudiques, pour te dire.
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Et oui, je pense que ça a beaucoup. Ça parle, quand on parle beaucoup de sexe, quand on parle beaucoup de choses, quand on parle de la mort de notre père un peu frontalement, les gens ils trouvent que c'est impudique. Et puis, je pense qu'on est assez touché par l'impudeur d'un Franck Océan dans Blonde, par l'impudeur d'un Sufjan Stevens dans Carrie and Lowell, de l'impudeur de. J'ai plus d'exemples, mais voilà. Et je pense que ça reste quand même des maîtres étalons qu'on a envie d'aller toucher.
C'est toujours un peu impudique, non, en fait, quand on écrit un texte.
Oui.
Ouais, mais en plus, tu parles de trucs d'artistes anglo-saxons. Moi, je trouve que. Je l'ai lu aussi et j'adore J'envisage l'impossible. Pour moi, ça ressemble à la poésie anglo-saxonne, qui est moins fleurie, moins lettrée, qui est plus dans l'immédiateté d'essayer d'attraper le parfum d'un souvenir par quelque chose de très concret, comme par exemple j'ai pris ce matin le bus numéro 24, celui qui m'emmenait vers l'école, je t'aimais mais je t'aime plus, enfin tu vois, ce poème n'existe pas, mais Kate Tempest par exemple,
c'était bien ce petit essai là de Kate Tempest,
magnifique,
hein, c'était la classe,
hein. Kate Tempest, connexion Kate Tempest, il y a le comme ça qu'il faut dire, je crois, écrit d'une manière que je trouve extrêmement inspirante, c'est-à-dire il y a tout ce réel, cette espèce de brutalité du réel avec des fractures mythologiques à l'intérieur, des grandes grandes envolées de lyrisme, et elle fait du rap, donc moi je ressens ça chez PNL aussi, c'est-à-dire c'est vraiment l'écriture de l'époque, du lyrisme en contradiction avec une forme de puanteur du réel ou de parfum délicieux du réel, je sais pas, ou juste de normalité. Et Kate Tempest, ouais, y a de ça, et il y a de ça chez Arthur Naveleau aussi, je crois.
Il y a de ça aussi chez vous, quand même, un petit peu.
Peut-être, peut-être.
Merlich, merci. C'est lui qu'il faut remercier.
Non, mais en tout cas, je suis content de parler de ça, parce que je suis en train d'écrire, d'essayer de trouver de nouvelles manières d'écrire en ce moment. Et par des espèces de haïku voiture, j'ai appelé ça comme ça.
C'est-à-dire alors ?
Des phrases qui marchent sur quatre jambes, sur quatre roues. Des idées, pardon, qui roulent sur quatre roues. Et je sais pas trop, c'est essayer d'être. De trouver de délivrer une puissance de vérité, une évocation de la vérité, sans essayer de d'embellir le réel, trouver la beauté du vrai dans sa brutalité. Et je trouve qu'en quatre phrases, ça permet d'avoir un vertige très rapide, d'essayer de saisir très rapidement. Donc c'est pour ça, une espèce de haïku voiture, je sais pas pourquoi les quatre roues, je sais pas, j'aimais bien. Plutôt que de dire quatre phrases, je trouvais ça plus rigolo de dire quatre roues, parce que ça permet à l'idée de se propulser très vite vers l'avant comme ça.
J'aimerais bien qu'on écoute un de vos titres. Avant d'écouter un des titres de la réédition, j'aimerais bien écouter Derrière le soleil.
Ouais. Oui, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez juste me parler en quelques mots de cette chanson, comment elle s'est créée ?
Derrière le soleil, c'est la chanson qui est au centre de notre premier album, Les Forces Contraires. Derrière le soleil, ça parle de la mort de notre père. Voilà, c'est assez ouvertement, naturellement. Et l'image de Derrière le soleil, c'est l'image de la présence-absence, quoi, on va dire. Ce que sont les morts, c'est-à-dire que les morts vivent avec nous, les vivants. Et derrière le soleil, on n'a pas accès à cet espace, on est ébloui. On peut difficilement même regarder le soleil sans être ébloui ou sans même se brûler les yeux. En revanche, y a quelque chose derrière le soleil, qui est l'astre lui-même ou l'anti-astre, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et c'est là que j'ai imaginé notre père, ou en tout cas l'espace, le pays des morts, quoi. Et derrière le soleil, il y avait cette idée de scander ce mot, derrière le soleil, ce qui devient presque un hurlement, le hurlement des humains en vie qui célèbrent ou qui hurlent à la mort ou qui qui prie pour la mort et pour la lumière, donc la vie dans son éternité, on va dire. Parfois on la chante, c'est comme à chaque fois qu'on chante une chanson, parfois on la sent comme quand on l'a écrit, au même endroit, avec la même émotion. Tout d'un coup le texte réapparaît et puis l'émotion avec. Puis parfois, quand je chante la chanson, souvent cette chanson, on voit très bien dans le public
qui ça touche,
qu'il y a des gens qui l'attendent particulièrement, parce que la mort a fait venir des gens à nous. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, tout à fait.
Le fait d'avoir parlé de la mort a fait...
Comme jusqu'à mon dernier souffle.
Tout à fait. Et donc, dans ces moments-là, c'est plus... c'est pas à nous qu'on la chante, c'est aux morts qui accompagnent les gens qui viennent nous voir. On voit, les gens, ils arrivent avec leurs fantômes. Donc, il est pas rare de voir... ça, c'est très beau, ça me touche beaucoup, ça m'émeut d'y penser. De voir des gens en couple... par exemple, le compagnon ou la compagne de tenir ou enlacer la personne qui visiblement a perdu quelqu'un et qui chante cette chanson. Ça, c'est vraiment des choses qui sont très très belles quand on a créé une chanson de notre côté pour se réparer nous. De voir que ça produit ça sur l'autre, c'est vraiment très très puissant.
On écoute Derrière le soleil.
Tu sais, dis-moi, j'écris des chansons populaires aux drôles de contours. J'écris papa pour pas mourir à mon tour. T'étais perdu dans le désert de l'amour. La vie s'est refermée à double tour sur toi. Au moins plus rien ne te fait du mal là où tu vas. Maintenant dis-moi, tu crois que j'ai peur de quoi? Vilain cancer a dévoré papa. Papa. Vaillamment tombe l'arbre. Vaillamment tombe la nuit, vaillamment est tombé mon père. Vaillamment tombe l'arbre, vaillamment tombe la nuit, vaillamment est tombé mon père. Derrière le soleil. Position fétale, flotter doucement dans les courants éternels. Est-ce vrai ou pas? Dis-moi, t'es mort. T'as laissé derrière toi des cœurs mercenaires, des enfants qui envoient des cris dans les airs. On sait pourquoi on vit que pour les concerts. La vie s'est refermée à double tour sur toi.
On va continuer avec ton livre qui, pour le coup, est dans la même thématique, La plus que vive de Christian Bobin.
Ouais.
Est-ce que déjà tu peux me dire un petit peu déjà ce que ça raconte et comment tu l'as découvert?
Alors, Christian Bobin, c'est un auteur que j'aime bien. J'aime bien l'homme, parce que quand j'aime bien les écrivains et quand ils ont eu la chance d'être enregistrés, d'être interviewés, j'aime bien écouter leur voix, comment ils parlent, comment ils pensent. Et souvent, les auteurs que j'aime bien voir s'ils parlent comme ils écrivent. Et souvent, c'est le cas. Et c'est le cas de Bobin. Il parle, il vit comme ça au Creusot, pas loin de Dijon, entre Dijon et Lyon. Et il parle, il essaie de, à l'intérieur de ses mots, comme ça, comme un chercheur d'or, d'essayer de chercher toujours la beauté, de se diriger vers l'écume de la beauté. Et il a une manière d'orienter son visage vers la lumière, de cette vie qui est très inspirante. C'est quelqu'un qui me soigne beaucoup, en fait, qui m'a beaucoup soigné. Et ce livre-là, en particulièrement, parce qu'il a écrit ce livre, La plus que vive, qui est l'histoire de la mort de Ghislaine, qui a été sa compagne, pendant longtemps, une vingtaine d'années, je pense. Et il explique la rencontre avec cette femme. Il explique quel amour il a eu pour cette femme et comment elle est morte d'une rupture d'anévrisme. Il dit des choses incroyables. Il dit, tu es mort d'une rupture d'anévrisme. C'est comme ça que C'est comme ça que les médecins appellent ces choses-là pour parler de cette manière de passer derrière ce fin écran comme ça de sable du temps. Enfin, il a une manière de parler de la mort, de l'amour et de l'éternité. Extraordinaire. Il a une manière de parler de cette femme, de cette Ghislaine. C'est un des plus beaux romans d'amour. Enfin, c'est pas un roman d'ailleurs, c'est comme un geste poétique. C'est à la fois du poème, à la fois un journal et de la pensée. Enfin, il a une manière comme ça d'écrire très. C'est toujours des choses très courtes, très concises. Quelque chose d'un peu presque japonais, calligraphique, trouver comme ça la goutte de pureté tout le temps. Et cette femme, il s'avère qu'elle est morte le même jour que notre père, pas la même année, mais un 12 août. Et en fait, quand j'ai lu ça, j'étais très touché par ce livre et ça m'a ouvert le cœur en deux. Et c'est pas facile de pleurer quand on perd quelqu'un. C'est pas toujours facile de pleurer, en tout cas moi ça l'était pas. Et moi ce livre m'a ouvert le cœur en deux et m'a permis de pleurer très longuement, très très longuement. Donc c'était qu'une libération, c'est sans peine. C'était juste reconnaître un humain qui me renseignait sur ce que je ressentais et qui me disait la mort n'est pas que l'abomination, surtout pas. Il y a de la lumière pour les vivants à l'intérieur de la mort. Donc voilà, il a été tout ça pour moi dans La Puce que vive, Christian Bobin.
C'est ce qui est génial aussi, c'est ce qui est la force, je trouve, à la fois de la chanson, parce qu'on en parlait avec Derrière le soleil, et aussi des livres, c'est que quand des gens et des auteurs arrivent à mettre des mots sur ce que tu peux ressentir, sans arriver forcément à l'exprimer toi-même, et qui, comme tu le disais, vont te fendre le cœur en deux.
C'est le travail des... Je crois que c'est le métier des artistes, des auteurs, des... C'est de recréer des mondes intermédiaires qui nous permettent de revivre des choses. C'est recréer des espaces-temps pour résoudre ou pour interroger. Voilà, c'est l'invention, la pure invention. C'est la pure magie. C'est la seule magie à laquelle je crois d'ailleurs. C'est celle-ci.
Mais donc tu connaissais Christian Bobin, tu as déjà lu plusieurs de ses livres, et c'est pas quelqu'un qui te l'a conseillé en particulier?
Si, je pense que c'est Barbara Pravi qui m'a fait lire Bobin pour la première fois. Et je pense que ensuite mes frères m'ont offert des Bobins. Il y en a un sur Pierre Soulages. Enfin, après, on m'a offert plein de Bobins. C'était vraiment un cadeau, le cadeau qui allait me faire plaisir à tous les coups. Donc j'en ai plein maintenant.
Et, cadeau facile.
C'est un cadeau. Bah, c'est un bobinou. Un petit bobinou, et puis voilà, j'en ai prêté plein. C'est, je pense, La Puce que vive, j'en ai acheté 4, je les ai donnés, je pense que j'en ai plus d'ailleurs.
Donc c'est un livre que t'offres beaucoup aussi?
Ouais, énormément, ouais. J'ai beaucoup offert Bobin. Je trouve que ça fait du bien, moi, ça me fait vachement de bien, donc je me dis que ça fera du bien aux gens. Et puis c'est pour des gens qui lisent pas trop, c'est pas trop dense, je trouve ça bien digeste, ça se lit vite, ça se lit bien. Vite et bien, tout ce qu'on aime.
Ça se lit vite, ça se lit bien, c'est pas Proust. Allez, emballez, c'est pesé.
Alors justement, la réédition de votre album, elle s'appelle La mort et la lumière. On va écouter L'alcool et la fumée. Comment elle s'est créée, cette chanson? C'était en sortant du confinement, il fallait...
Pendant.
Pendant Bernard. Pendant. Donc, ouais. En mai,
ouais, 2021. Il y a un an. C'était le début de la réouverture, c'était pas encore folichon, mais on commençait à sortir un peu des enfers. Moi, c'était...
Donc on était en train de faire Je tiens d'elle avec Bernard Lavillier au studio, là. On a fait un titre avec lui en fait, dans son dernier album, un duo. Et il est tellement bon, tellement bon esprit, tellement bonne énergie que les soirs à 22h après la fin des sessions, non 20h, on se remettait de notre côté pour finir notre album. Et du coup, on a fait L'alcool et la fumée en genre une heure. Et ensuite on l'a un petit peu bougé pendant 2-3 jours, mais c'est un morceau qui s'est fait relativement vite et relativement facilement par rapport à d'autres titres, par rapport à L'Infini qui a été un morceau qui a connu quand même 76 versions, faut pas déconner, c'est true story, hein, c'est vraiment exhaustif. Et L'alcool et la fumée s'est fait en V4, quoi. Et...
Parce qu'il y avait une urgence à raconter ça, justement.
Ouais, parce qu'on l'a fait comme des rappeurs, c'est-à-dire que j'ai fait l'instru, Raphaël a fait le texte en même temps. Et du coup, dans ce genre de situation... Souvent, t'as figé quelque chose ensemble. On fait rarement du travail de groupe comme ça. c'était assez nouveau en fait de faire la prod en même temps que Raphaël il textait, parce que parfois on le fait, mais des fois c'est un petit peu aride, mais quand tu sens que t'as vraiment t'es une énergie un petit peu euphorique, ah, il peut se passer des trucs de fou. Et du coup on a fait ça sur deux morceaux, un morceau qui n'est pas sorti, qui sortira peut-être jamais ou pas, qu'on aime beaucoup aussi. Et en tout cas c'était
ça, c'était donc le 9 mai 2021. J'ai besoin de retrouver sur mon téléphone. Donc il n'y a pas de texte, c'est vraiment que l'énergie.
C'est une bonne... de contrôle. On chantait du gars.
C'est moche, hein. On sent la tête. Ah, on sent le refrain qui arrive là. Je chante comme Michel Jonas. Donc j'écris pas en fait. Ah, ça y est, c'est là. 10 secondes 17, l'idée est arrivée. De du néant, vous avez entendu ? Mi désir, mi danger.
Mi amour, mi danger. Il va arriver avec la bonne mélodie. Et... mi désir, mi danger. La fête, c'est compliqué. C'est financier. Les pâtisseries, les financiers. Mi danger.
L'amour c'est compliqué. Hop voilà, c'est bon.
Et voilà l'idée, l'aîné.
Après...
truc de dingue, et c'est comme ça que vous fonctionnez
en bah, je, pour ce morceau en tant que tel, sinon on fait ça très rarement. Mais j'invite tout le monde, tout le monde qui écoute ce podcast à regarder Pharrell et Justin Timberlake trouver l'idée de Lady.
De Rock Your Body.
De Rock Your Body. Sur YouTube, vous mettez.
Ça dure 15 minutes.
Pharrell et Justin Timberlake Finding Rock Your Body Bridge, quelque chose comme ça.
Ils sont là comme ça. Tum, tum, tum. Et donc. Your body. Tu te souviens de ce moment? Et donc avant qu'il trouve cette idée, il tourne mille fois autour de l'idée mélodique et tu sens que l'idée va arriver et tout, mais elle est toujours pas là. Bref, on s'est écarté un peu du sujet de l'écriture de.
Et du coup, mais le texte, il est venu dans l'urgence du truc.
Comme ouais. Ça là, comme ça, il y avait rien d'écrit. Et donc mi désir, mi danger. C'est ce qui est sorti de, comme ça de yaourt, on va dire. Et ensuite, cette idée, je me suis dit, tiens, la fête, c'est compliqué. Et après, j'ai écrit le texte.
Parce qu'un texte écrit, on ne sait pas s'il est musical jusqu'à ce qu'il soit chanté, quoi.
Ouais.
Donc, c'est pour ça la grande différence entre l'écrivain, l'auteur. C'est qu'au bout d'un moment, bon, il doit toujours y avoir une musicalité, mais quelque chose qui tient dans un système occidental de musique, de musique populaire, qui rentre sur un truc qui laisse de la place pour un kick... qui laisse de la place pour des fréquences médiums, ben en fait, si tu dis le mot asperge, c'est pas la même chose que dire le mot électricité. Tu sens qu'il y a beaucoup plus d'harmonique quand tu fais comme ça. Électricité, ça te permet d'avoir ça, et là, tu peux électricité, asperge. Tu vois à quel point la musicalité est différente pour tous les mots. Donc un agencement verbal qui doit rentrer dans une chanson, c'est un jeu de casse-tête et de Rubik's Cube très intéressant.
Et ça arrive souvent, ça, justement, que tu crées une instru comme ça et qu'après, toi, tu viennes derrière pour dire...
Ouais, de plus en plus.
Là, on l'a fait pour quasiment tous les titres de la réédition. Pas exactement de cette même manière aussi hip-hop. Mais là, pour ça, pour
l'infini
un autre morceau,
aussi.
L'infini, c'était pareil. Ouais. Non, l'infini,
Swing
c'était,
d'argent.
T'avais déjà écrit tout un texte.
Ouais.
T'avais déjà écrit tout un texte, tu sais, de ton EP et perso, là.
Ouais, ça... Non, mais je veux dire, en tout cas, je suis parti de ton instru pour poser le
oui,
texte.
Oui, ensuite, là, pour toutes les
parties. Je suis pas arrivé avec une idée mélodique, quoi, je veux dire.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Allez, on écoute l'alcool et la fumée. C'est parti.
Mi désir, mi danger. La fête c'est compliqué, noyé, moteur noyé. Le cœur faut vidanger, ouais, fait couler, fait tourner. L'alcool et la fumée, ouais, fait couler, fait tourner. L'alcool et la fumée, la légendaire nuit de la fête commence dès que je la fais. Mieux vaut faire une fois la fête bien que mille fois la fête mal. Si t'as du mal à faire le bien, au moins la nuit personne le voit. Si t'as du mal à faire le bien, au moins la nuit personne voit rien. Mi désir, mi danger. La fête c'est compliqué, noyé, moteur noyé. Le cœur faut vidanger, ouais, fait couler, fait tourner. L'alcool et la fumée, ouais, fait couler, fait tourner. L'alcool et la fumée. Coucou César, ceux qui veulent jamais mourir te saluent. Corps libéré dans le noir, si t'as pleuré fort on voit quasi plus. Toi qui viens voir des orages, toi qui cherches la vérité. La nuit noire du fond des âges, viens pour te sauver, te sauver, te sauver, te sauver. Viens pour te sauver, te sauver. fait, c'est compliqué,
et ben, on termine avec Calvin et Hobbes, votre choix commun.
Ouais, ça c'est notre mère qui nous a écouté, qui nous faisait lire ça, et quelle intelligence de nous faire lire ça à cet enfant, à cette époque, parce que c'est donc c'est une BD, hein, écrite par Bill Watterson. Calvin est un jeune garçon de 8 ans qui vient de la classe moyenne. Le père, je crois qu'il est... On sait jamais employé, trop ce que font quoi. Les parents, mais c'est vraiment les classes moyennes.
Riquettes.
Et il a une imagination débordante, il est surdoué, il est un peu mégalomaniaque. Enfin, il vit dans son monde qui est vraiment bien mieux que le monde des adultes. Il comprend pas trop ses parents, il trouve que leur vie, c'est vraiment de la merde. Et il a surtout son tigre en peluche qui prend vie à chaque fois qu'ils sont que tous les deux, et la plupart du temps il est tous les deux, c'est un enfant très solitaire, il n'a pas d'amis. Et en fait, Calvin et Hobbes, hein, c'est les deux philosophes et deux protestants en fait, qui avaient des idées très très divergentes. Et du coup, ils passent leur temps à être très très opposés, mais ils s'aiment bien quand même. Et du coup, il y a des moments qui saisissent l'imaginaire d'un enfant incroyable, parce que c'est dessiné de manière très sommaire, et parfois il y a des moments mais absolument incroyables, où par exemple, là je vous lis ce comic strip, genre on voit Calvin éternuer, il fait un énorme éternuement, et là il parle de lui à la troisième personne, où on le voit s'envoler dans la stratosphère. La force de l'explosion nasale projette Calvin dans la stratosphère, avec de moins en moins d'air pour résister à sa poussée. Il sort du champ de gravité de la Terre. Alors qu'il sort de la galaxie, Calvin comprend pourquoi il faut mettre sa main quand on éternue, pour éviter toute propulsion. Et là, s'il est trop tard pour le corps Calvin, le satellite humain. Mais attendez, un nouvel éternuement se prépare, Calvin se tourne. Le second éternuement le projette sur la Terre, il est sauvé, c'est un miracle. Et voilà. Et on le revoit, il est complètement défoncé.
Ce que je trouve marrant, c'est que je l'ai trouvé dans la littérature jeunesse, mais au final, je trouve que quand tu le feuillettes...
Ouais.
Énormément de textes.
Ouais, et puis surtout, c'est assez... Je pense qu'il y a des trucs que tu ne peux saisir que quand tu es adulte, au final.
Bien sûr.
Ah ouais, ouais.
En fait, comme d'hab, c'est-à-dire comme c'est un enfant qui est le protagoniste principal, du coup, ça doit s'adresser aux enfants. Mais en fait, ce gamin, il est infect, il est misanthrope, il est imaginatif, il est radical... c'est pas l'image de l'enfant qu'on se fait, qui est candide, naïf, parfait, gentil, pas pur, pas du tout. Il est très impur, il est plein de cruauté envers son animal. Du coup, il est très humain, il a une grande complexité. Je trouve que d'avoir donné vie à ce petit humain complexe, pour moi, les personnages les plus intéressants, Mr. Bean est comme ça. Mr. Bean, il a son nounours. Qui fait des crasses, mais qui est aussi son meilleur ami. Mr. Bean est misanthrope, et à la fois, c'est parce qu'il est si complexe et si agaçant qu'on l'adore et qu'on peut s'identifier à lui. Et je trouve que Calvin, il est comme ça, et parfois, ils sont juste très potes et ils contemplent l'existence et tout va bien entre eux. Et puis souvent, c'est quand même, ils vivent dans le drame, quoi. Et ces grandes réflexions philosophiques, toujours, c'est quand ils tombent quand ils dévalent dans un petit chariot en bois.
Une
caisse à savon avec son tigre. Et souvent, ils tombent, et c'est le moment où ils ont leur plus grande réflexion philosophique tous les deux. Et ils débarrouent le truc, ils tombent et on les voit réfléchir comme ça, en tombant. C'est super bien, Calvin et Hobbes. Faut lire Calvin et Hobbes parce que c'est génial.
Et ça, c'est votre mère, c'est ça qui vous a fait découvrir.
Ouais. Notre mère, elle nous a. Le rapport à la lecture, c'est notre mère qui nous l'a refilé. Tous les soirs de notre vie, pendant très longtemps, elle nous a lu des histoires. On était tous posés contre elle, les trois frères, et on a écouté notre mère nous lire des histoires. Et elle a ouvert, je pense, très grand nos imaginaires à ce moment-là. Enfin, très grand, en tout cas suffisamment pour faire rentrer en nous le goût des mots et des histoires, du conte en fait. Et je pense qu'il faut lire, ouais. Il faut se lire des histoires, même pas que à ses enfants, mais je pense même les gens qui s'aiment. Je pense que c'est une activité qu'on fait pas assez, lire des histoires aux autres.
Ouais, ils étaient bien alternatifs, nos parents, pour tout plein de choses. Tu vois, on s'est quand même vraiment retrouvé à écouter des trucs de fou très jeune, à lire des BD jeunesse de fou vraiment très jeune. Et moi, je sais que Calvin et Hobbes, ça m'a marqué pour toujours, quoi. C'était complexe, je me prenais pas pour un con, je me disais, mais cet enfant qui dit des choses tellement intelligentes, mais c'est génial, je comprends pas ce qu'il dit, mais c'est génial, il a l'air trop intelligent, il est surdoué, quoi.
Quel rapport vous avez gardé avec la lecture? Vous échangez encore beaucoup de livres?
Non, on s'échange pas beaucoup de livres. Moi, j'essaie de trouver du temps pour lire... J'achète beaucoup de livres en ce moment que je lis un peu, mais je me suis un peu fait manger par les machines, très honnêtement. Les smartphones et tout, et les ordis et les vidéos. Et heureusement, j'arrive à nouveau à écrire, ce qui me réconcilie un peu avec les mots. Mais Heureusement que j'ai ça, parce que sinon je trouve qu'on vit dans une période où c'est vraiment pas difficile de s'abrutir. C'est sacré le temps, la temporalité de la lecture. Le temps qu'on prend pour lire, c'est un temps il faut essayer de conserver ça dans sa vie, parce que c'est moins, ça demande cet effort et cette concentration que ne demande pas un écran. Et cette activité cérébrale et sensible de mettre son imaginaire en éveil, je pense que pas d'autres choses qui peuvent le générer à ce point.
On va faire un petit questionnaire de Proust et il faut que vous me répondiez du tac au tac.
Pas de soucis.
Vite. T'inquiète. Et de manière courte.
Succincte et courte.
Et si vous étiez un jour de la semaine ?
Le vendredi après-midi.
Ouais, vendredi.
Vendredi, parce que ?
Parce qu'après c'est le week-end. Alors,
ouais, c'est le moment où on peut tout lâcher là.
Si vous étiez une œuvre d'art ?
Aujourd'hui, je dirais un outre noir de Pierre Soulages. L'ombre lumineuse, on va dire.
Oh, je pensais à Chassériaux en début d'après-midi, donc je vais dire ça, un très beau portrait de Chassériaux. Pas pour moi, mais juste parce que je sais pas, j'aimerais bien en voir un là.
Votre insulte favorite ?
Niquer de sa mère.
Je sais pas, mon insulte favorite, nique sa mère, je crois que c'est horrible. Nique sa mère, je crois que ça marche, c'est horrible. C'est
pas...
je crois que
moi, c'est niquer de sa mère, c'est pas la même chose. Niquer de Sam, parce que je préfère niquer de Sam juste.
Niquer de
Sam. Ah, niquer de Sam. Ah, il est niqué de Sam.
L'endroit où vous préférez vous réfugier ?
Sur mon vélo.
Ça va être ultra cucu. Mais mon ordi quand j'écris. J'ai l'impression de monter sur un bateau et d'être à la maison, quoi. Vraiment.
Votre drogue favorite ?
Alcool.
Ouais, la bière, ouais.
Et pour finir, un métier que vous auriez adoré faire ?
Musicien. Ah, disquaire. Disquaire, il faudrait vendre des choses, faire des états de compte de rayon. Animateur de radio, je fais juste des sélectas de musique.
Moi, j'aurais bien aimé réaliser des films ou designer des structures humaines, des architectures humaines. Comme de l'urbanisme, je sais pas, du design d'urbanisme, un truc comme ça.
Pour terminer, j'ai pour habitude d'offrir un livre aux artistes que je rencontre et je voulais vous offrir Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin. Est-ce que vous l'avez lu ?
Non, trop bien. C'est vraiment beau de recevoir un livre. Ah, regarde, des petits lions, des petits enfants avec des épées.
C'est un peu vous deux, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement.
Laurent Petit-Mangin devant...
Sur une flèche en plus, assez drôle, hein.
C'est l'histoire d'une famille en Lorraine. La maman meurt et le père reste avec ses deux enfants. Le père est très engagé politiquement, plutôt à gauche, très à gauche, et il va essayer de garder ce noyau familial en place. Et malheureusement, il y a un fils qui part et qui va s'installer à Paris, si je me souviens bien, et l'autre reste et tombe, lui, dans l'extrême droite, dans les groupes d'extrême droite, et se pose la question, dans ce livre, de l'amour inconditionnel d'un père à son fils.
Ouais, de la transmission, surtout, je pense, hein, et des échecs.
Ceux qui partent, ceux qui restent aussi.
Qu'on n'arrive pas à...
Ceux qui partent et ceux qui restent.
Et ça répond bien, je pense, à vous, c'est une histoire de frères, on parle un peu de la mort. Encore une fois, il y a plein de thèmes de votre musique qu'on retrouve dans ce livre qui est vraiment très beau.
Bah merci beaucoup.
Merci.
Ça me touche beaucoup, moi, perso. Merci. On reçoit rarement des cadeaux quand on crée des podcasts.
Merci.
Juste une dernière question, les gars, avant qu'on se laisse, de jouer au Fnac Live. Déjà, de reprendre les festivals et le Fnac Live qui se passe sur le parvis de l'hôtel de ville, etc. C'est quelque chose aussi, j'imagine, qui est assez...
Ah ouais, franchement... C'est jouer à Paris en extérieur, c'est quand même une sacrée ville. On est né à Saint-Etienne, mais ça fait longtemps qu'on vit à Paris maintenant. Ce parvis, c'est quelque chose dont on a eu la chance de jouer à l'intérieur de l'hôtel de ville. C'est un bâtiment qui est magnifique, l'hôtel de ville de Paris. Et devant, ça va être un peu la teuf, quoi. C'est un peu la teuf.
Ah, c'est la fête à la choucroute, hein.
Ça va être un peu un petit moment de cérémonie aussi, je pense.
Ouais, ouais.
Puis c'est rempli de monde. Ça va être vraiment la belle teuf, quoi.
Et ben merci beaucoup, en tout cas.
Merci infiniment pour ce moment.
Merci
pour les cadeaux.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, un épisode réalisé, je vous le rappelle, en partenariat avec la FNAC à l'occasion de FNAC Live Paris. Terre Noire se produira sur la scène du Parvis de l'Hôtel de Ville le 1er juillet à 20h. Perds pas ma page est disponible toutes les semaines et sur toutes les plateformes. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode. N'hésitez pas à noter aussi l'épisode sur votre application favorite ou à le partager. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et d'ici là, très bonne lecture.